d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Pour cette émission, nous accueillons en studio Hervé Chauzet-Ville, engagé dans l'action humanitaire depuis 1978, qui vient de publier son quatrième ouvrage, Au fil des chemins, avec comme sous-titre Afrique, Asie, Méditerranée, chez Edi Livre. Pour nous, il est venu spécialement de Corse. Bonjour Hervé.
Bonsoir Michel.
Alors merci d'être avec nous en studio pendant toute cette émission et en particulier dans la seconde partie qu'on va vous consacrer entièrement. Et pour la première, je vous invite tout à l'heure à réagir sur ce qui va être dit. Politique, lecture et culture, tel est le thème retenu pour ce soir. Initialement, nous avions prévu d'échanger avec des hommes politiques et d'aborder avec eux ces questions. Que lisez-vous? Écrivez-vous? Et quoi? Mais nous avons dû y renoncer. Certes, c'est une question délicate, mais que tout citoyen est en droit de se poser. Jean Jaurès disait « Quelle magnifique invention que le livre !» François Léotard, ancien ministre, écrivain, qui réside désormais dans le Var, s'inquiétait un jour, il y a quelques années, de l'inculture des hommes politiques de l'ère moderne. Il y avait là, de sa part, je pense, un commentaire très pertinent. Cicéron, Napoléon, Churchill, De Gaulle, Mitterrand, tous ont joué un rôle extrêmement impressionnant dans la culture et c'était des gens qui lisaient et qui écrivaient. Et comment ne pas ici reprendre ce commentaire du général de Gaulle, la véritable école du commandement et la culture générale. Certes, en regardant les questions au gouvernement, on découvre que nombre de députés lisent le journal et plus précisément Le Monde. Mais au-delà, quelle est leur lecture comme culture, comme approfondissement, voire comme découverte d'un problème sociétal ? Alors pour cette émission, en l'absence de gens sollicités, nous écouterons d'abord ce que dit Hubert Védrine, ancien ministre et homme reconnu et apprécié par ses ouvrages et ses visions du monde, dans une interview au journal du dimanche. Je rappelle ici son dernier livre tout à fait remarquable, « La France au défi », Fayard 2014. Mais que dit-il dans le journal du dimanche ? Écoutez bien. C'est assez impressionnant de voir comment il voit la chose, en l'occurrence, dans notre époque actuelle. Les hommes politiques sont aujourd'hui en moyenne peu cultivés, dit-il. Ils ne lisent pas parce qu'ils ne trouvent pas le temps. Mais à quoi passent-ils leur temps ? Ils jugent que ce n'est pas prioritaire, pas utile de lire. Cela légitime une sorte d'acculturation moyenne dont aucun écran ne peut combler le vide. Moins ils lisent, moins ils sont capables de faire passer des messages essentiels, et cela contribue à la perte de sens. Et plus loin, il dit « La lecture est une antidote à cela. Il existe dans la lecture une lenteur et une densité nécessaires à la construction de l'homme. Les lecteurs deviennent une petite minorité. Il faut défendre la lecture par tous les moyens. Certes, je dis cela parce que je ne pourrais pas vivre sans lire et écrire. » Mais je crois sincèrement qu'il faut réintroduire l'éblouissement de la lecture dans les vies d'aujourd'hui et dans la politique de ce monde. Nanti de ces commentaires d'Hubert Védrine, nous avons sollicité une femme qui, elle, a accepté de nous recevoir chez elle, Evelyne Dubosc, artiste, chanteuse et adjointe à la culture pendant 6 ans à Tourrette-sur-l'Eau, dans le Pays de Grasse. Lucide, encore marquée par ce qui s'est passé, comme les électeurs, d'ailleurs une grande partie des électeurs, elle parle avec intelligence, courage et lucidité du monde politique et de la culture à partir de sa propre pratique. En plus, elle esquisse de nouvelles perspectives. Écoutons-la. Nous allons maintenant accueillir Evelyne Dubosc, qui a été adjointe à la culture à Tourrette-sur-Loup, un merveilleux village près de Grasse. Et d'ailleurs, Tourrette-sur-Loup fait partie du pays de Grasse. Evelyne est artiste et en plus, elle est particulièrement ouverte à la culture. Alors Evelyne, que pensez-vous des hommes politiques, de leur culture, de leur capacité à lire et à écrire ?
Je pense que les hommes politiques, quels qu'ils soient, ont peut-être la capacité de se cultiver, de lire, d'écrire, mais peut-être la capacité intellectuelle, mais pas la capacité matérielle. Un homme politique est débordé de travail, croule sous une charge de soucis. J'ai découvert cela à ma petite expérience personnelle d'adjointe à la culture pendant 6 ans ici à Tourrette. Le poids de la responsabilité fait que, en tout cas pour la personne principale d'un village, le maire, mais aussi pour les autres adjoints qui l'entourent, un poids si lourd qu'on a l'impression parfois qu'ils ne peuvent plus se débarrasser de ce poids. Donc je pense que à cause de ce poids, la littérature, l'écriture et la culture sont des moments à part rares.
Justement, Evelyne, l'homme politique, c'est celui qui est responsable dans un espace donné de gérer cet espace pour les citoyens au présent et pour l'avenir, et qui assure par ailleurs la temporalité et non pas l'urgence. Or, on a l'impression que tout est urgence et tout est réifié et évacue la culture, la littérature et l'écriture.
Pour ma propre expérience ici, je peux dire que Monsieur le maire a très vite compris que j'étais quelqu'un de passionné. Il me connaissait à travers mes actions culturelles musicales, notamment depuis longtemps ici dans le village. Il savait que j'allais saisir à bras-le-corps ma charge et que j'allais mener des actions. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir laisser libre cours à mon imagination, à beaucoup travailler, ça c'est sûr, mais dans une confiance absolue. J'ai toujours dit que je travaillais à la mairie comme à la maison. Parce que, exactement comme une maîtresse de maison organise sa matinée en faisant ses confitures, ses gâteaux ou je ne sais pas quoi, moi, à la mairie, j'organisais ma semaine librement, avec vraiment une grande joie, un grand plaisir. Et le maire a eu raison, puisque c'est comme ça que j'ai fonctionné et que j'ai pu mener des actions jusqu'au bout. Si le maire ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui est capable de mener cette action de A à Z jusqu'au bout du bout, il n'y a pas de culture quelque part, parce que la culture demande une grande passion. Après, bien entendu, un réseau qu'il faut aller chercher, qu'il faut découvrir, qu'il faut trouver, et puis ensuite des priorités. Est-ce que la priorité dans certains villages, c'est plus la peinture? Est-ce que c'est plus la littérature? Selon l'histoire, selon le patrimoine du village aussi, ça c'est très très important. Je sais qu'ici à Tourette, le village étant un village d'artisans d'art, je crois que c'est la peinture et la sculpture qui ont certainement la première place. C'est également en fonction des lieux. Moi, j'ai essayé d'occuper les lieux, quels qu'ils soient, des petites chapelles, non seulement l'église, mais aussi des petits lieux pour y faire des petits concerts. Donc, ça n'intéresse qu'une centaine de personnes chaque fois. Mais je me suis dit, bout à bout, si on met chaque fois en place des petites choses, on fidélise un public et ensuite, ce public, on peut l'entraîner à voir les choses en plus grand, pourquoi pas. Mais on a profité de tout ce que géographiquement le village pouvait déjà nous offrir.
Là, vous êtes en train de définir un profil de l'adjoint à la culture qui est merveilleux. Parce qu'en plus de tout ce que vous avez dit et de la passion que vous mettez à votre travail, il y a derrière une vision et une visée. Alors justement, je pose la question, les hommes politiques que vous avez rencontrés, selon vous, ont vraiment une vision et une visée?
Je pense qu'ils en auraient une, à condition qu'ils aient autour d'eux quelqu'un qui puisse prendre à bras le corps cette fameuse culture et la développer. Parce que je crois qu'après, la confiance, elle viendrait très vite. Peut-être que là où le bât blesse, c'est qu'il faut être en même temps un artiste et avoir envie de poser sur sa tête une deuxième casquette qui est une casquette politique. Alors, on n'a aucune expérience, la plupart du temps, de cette vie politique qui est quand même une vie de contrainte, avec des prises de parole publiques, avec une certaine attitude à tenir. C'est pas forcément toujours la caractéristique numéro un de l'artiste qui est dans ses pinceaux ou qui est dans son écriture, justement. Sinon, l'homme politique qui est peut-être dans une grande ville ou qui a une dimension plus importante que celle qu'il a dans un petit village a forcément une autre formation. Il a sa propre formation qui est aussi une formation artistique ou littéraire parce qu'il a une culture qui a été développée forcément par la place qu'il occupe. Et donc il a peut-être lui plus de facilité de développer dans sa ville une action culturelle par un réseau qu'il connaît. Mais je pense que lui seul n'y arrivera pas. Il faut qu'il fasse confiance à celui qui est capable de la lui mener, cette action culturelle.
Justement, vous avez touché à trois mots, art, culture et politique. Le mot politique vous est retiré, vous vous retrouvez avec l'art et la culture. Mais comment peut-on imaginer une nouvelle alliance, je prends cette expression, entre l'art, la culture et la politique, selon vous, dans nos petits villages, dans le Pays de Grâce, ou dans toutes ces communes qui sont là et qui font grosso modo moins de 2500 habitants ou 5000 habitants?
Alors, à ma propre lecture de ce qui vient d'arriver, j'ai perdu les élections et je suis tenue de me déposer, de déposer plutôt, et de me délester de toutes les envies culturelles que j'avais encore. Je peux les passer à ma remplaçante ou à mon remplaçant. Je ne sais pas si ce remplaçant les respectera. Je sais qu'à Tourette, ma remplaçante m'a assuré que toute l'année 2014 serait suivie. Bien, c'est déjà formidable. C'est un beau cadeau pour le village. Ensuite, je pense que pour qu'une action culturelle soit menée et qu'elle puisse s'épanouir dans le temps et dans la durée, il faut qu'elle soit au départ il faut que ce soit au départ un service. Il faut donc que cette action culturelle soit décidée et soit construite par des agents municipaux qui sont des fonctionnaires, qui sont compétents, qui ont appris le métier, qui vont aller voir des pièces de théâtre, qui vont rencontrer des écrivains, qui vont aller écouter des musiques et qui peuvent les proposer ensuite dans leur village. Il faut que ce soit eux qui soient à la tête du réseau. Quel serait le travail de l'adjoint? Eh bien, l'adjoint est là pour voter des subventions, pour défendre un projet autour de la table d'un conseil municipal. C'est souvent une chose ardue, parce qu'il faut que les subventions soient importantes, il faut que le budget d'une commune pour la culture soit développé, c'est plutôt le contraire qui se passe, ça se réduit comme peau de chagrin. Donc, le travail du service culturel, c'est de convaincre l'adjoint, mais ce serait formidable si dans toutes nos petites communes, ce soit au départ une décision de service. Parce qu'à ce moment-là, même si l'adjoint en place a perdu les élections 6 ans après, la programmation continue et l'élan que l'on donne à un village n'est pas perdu. Il continue sur une longue durée. Parce que souvent, des grands projets, c'est 2-3 mandats. Voilà. Donc, on ne peut jamais savoir politiquement comment ça va se passer dans un village. Donc, il ne faut jamais oublier que l'adjoint ne fait que passer.
Alors, vous posez, je trouve, remarquablement la situation, parce qu'il me semble que la plupart du temps, la politique, c'est un enfermement dans le pouvoir et une incapacité d'autorité. Et vous sortez, justement, cette idée de service qui intègre le long terme et qui est une sorte de médiation entre l'art, la culture et la politique. Et faire de l'adjoint à la culture, la personne qui, en termes techniques, en termes de politique, va obtenir des subventions, faire passer un budget, mais maintenir dans la durée, à travers ce concept de service, et demain pourquoi pas d'agence ou autre structure, peu importe, une entité spécifique. C'est bien ça.
Ça, c'est mon rêve, vraiment.
Finalement, si je comprends bien, votre rêve, c'est un service culturel ou une entité comparable.
Oui, je pense que mon rêve serait que le service culturel puisse vivre sa vie de manière parfaitement indépendante par rapport à une mairie. Je sais que c'est compliqué parce que la mairie est dans un carcan administratif qui est lourd, mais il faudrait que le service culturel puisse justement être peut-être le seul service qui ait une place à part, qu'il faut inventer, avec à l'intérieur de ce service culturel peut-être plusieurs personnes qui travaillent, que ça ressemble d'une certaine manière à une association, mais qu'il y ait un médiateur, qui soit un employé municipal, qui lui soit là en permanence, qui puisse faire une carrière entière dans une municipalité et qui puisse d'une certaine manière tirer les bonnes ficelles. Voilà, l'adjoint à côté qui veille au budget, qui veille à ce que les choses soient raisonnables ou sages pour la commune, avec bien entendu l'approbation de monsieur le maire. Mais ce serait intéressant que le service culturel puisse s'épanouir de manière presque indépendante, on va dire. Et peut-être que ce service culturel et ce médiateur culturel puissent s'appuyer aussi bien sur tout ce qui est administratif, structure, mairie, et pourquoi pas une association qui pourrait régulièrement tendre la main vers ce service pour organiser un festival ou quelque chose de très très ciblé, ou quelque chose sur la littérature, ou quelque chose sur la musique. Voilà, c'est comme ça que j'imagine les choses.
Si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire que la culture est une chose trop sérieuse pour n'être que dans la sphère la politique et qu'elle relève du politique au sens noble du terme et qu'il faut trouver une sorte de médiation en termes de services, en termes de personnes qui permettrait d'articuler dans le long terme, au-delà de toutes les successions des maires, etc., la vie culturelle profonde d'un village ou d'une petite ville.
Tout à fait. Mais je pense que la culture, c'est certainement le seul lieu où l'on peut vraiment être humaniste. J'ai beaucoup entendu parler de ce mot humaniste, humanisme, humaniste, pendant la période électorale. Et je me dis que s'il y a bien un service qui est au service de l'humanisme, c'est la culture et l'action culturelle. Parce qu'en face de nous, nous avons des artistes, nous avons des êtres qui sont souvent des écorchés, qui sont aussi des êtres humains souvent compliqués, difficiles, riches, particuliers. C'est bien pour ça qu'ils sont justement pas comme l'ordinaire. Ils sont ou peintres, ou écrivains, ou musiciens. Donc c'est déjà en soi quelque chose d'un peu exceptionnel, dont on a tellement besoin dans notre vie de tous les jours, presque. Et je pense que, oui, je pense que c'est ça l'humanisme, en fait, d'être au service des artistes, pour moi en tout cas.
Oui, vous rejoignez une pensée très forte d'Henri Laborie, que j'ai eu la chance de connaître, et qui disait que pour lui, et au terme de sa vie, la chose la plus importante qui était, en termes de recherche, en termes de pratique, c'était de travailler à ce que l'humanité entre mieux en humanité. Et je pense que vous êtes bien sur cette logique. Comment chaque village nous sommes, vous, moi et d'autres, les auditeurs, pouvons faire en sorte que cette humanité du quotidien soit plus présente au cœur de notre vie quotidienne et de nos villages. Pour ça, il faut sortir de l'urgence, il faut sortir des échéances politiques, il faut assumer dans la durée des projets qui donnent du sens à tous.
Qui donnent du sens à tous et qui donnent surtout du bonheur.
Merci beaucoup Evelyne, et nous allons terminer cette émission par une partition musicale de Evelyne, ne l'oublions pas, qui est avant tout une pianiste, une artiste très centrée dans le domaine de la musique, du chant. Vous avez des activités, disons, on en dit quelques mots quand même, il n'y a pas que la lecture.
Moi, je suis chanteuse principalement, voilà, chef de chœur et chanteuse. Et maintenant que je ne suis plus justement dans l'action politique, je vais pouvoir m'épanouir encore davantage dans tout ce qui est musical.
Extrait du dernier disque d'Evelyne, Poussière d'exil, ce chant séfarade qui traverse le temps. Écoutez, lentement d'abord, puis progressivement. Avec une telle voix, Evelyne va sans aucun doute trouver une nouvelle voix qui articulera la politique, la culture, la lecture et la musique. Hervé, quelques mots très brefs sur votre réaction immédiate.
J'ai été très touché par ce qu'a dit cette dame que je ne connais pas. Je partage l'essentiel de ce qu'elle a dit. Je me qualifie moi aussi d'humaniste et j'ai la même conception qu'elle en ce qui concerne la place de la culture dans notre société. Je suis tout à fait... je regrette qu'elle n'ait pas été, élue aux dernières élections. C'est un discours que j'aimerais entendre plus souvent de la part de nos hommes politiques, même de nos édiles municipaux.
Alors je pense, Hervé, qu'elle a peut-être une chance dans son malheur, à savoir que le temps qui va lui être donné va lui permettre de repenser la totalité de son travail dans ce domaine et peut-être de revenir avec des idées totalement nouvelles.
Certainement.
Alors, chers auditeurs, ne nous quittez pas, nous allons dans un instant commencer la deuxième partie, ne nous quittez pas surtout, et c'est surtout autour d'Hervé, de son parcours, de son œuvre que nous allons consacrer cette même question, politique, culture, lecture, écriture. Prenons notre échange, chers auditeurs, sur politique, lecture et culture. Et peut-être pour faire la jonction entre Hervé qui est en studio et Evelyne qui vient de nous parler, je commenterai un petit peu de la façon suivante. Le culturel implique, semble-t-il, un pilotage en termes d'agence ou de service, mais qui s'inscrit dans le temps. Repenser le rôle de l'adjoint à la culture et explorer des démarches qui dépassent l'urgence, voilà une perspective extrêmement intéressante qu'a suggéré Evelyne. Je rappelle ici la question du temps. L'urgence et violence du temps, écrit avec pertinence Saki Laïdi. Et il ajoute, cette urgence ne modifie ni ne transforme. L'urgence est toujours en retard sur le temps. Alors, cette question du temps, elle est partout, y compris, au niveau de la culture. Et pourtant, sans inscription dans la temporalité, quelle pertinence peut avoir la politique ? Passer, repasser, en attendant de trépasser, peut être un objectif politique, mais pas une finalité politique. Alors, aucun avenir en politique n'est concevable pour la culture, et en particulier pour la lecture, et j'ajoute pour l'écriture, s'il n'y a pas cette inscription dans la temporalité. Alors Hervé, nous allons passer à vous. Vous êtes un homme de terrain, vous avez été confronté à ce besoin d'écrire pour témoigner, pour prendre de la distance et pour témoigner à nouveau et inviter à agir autrement. Vous avez déjà publié 4 livres, nous allons surtout parler du dernier. Alors parlez-nous de vos 3 premiers livres, quand est-ce qu'ils ont été publiés et nous allons arriver au dernier.
Bon, je suis parti en Afrique en 1989. J'avais déjà quelques années derrière moi d'expérience en Asie du Sud-Est quand je suis parti au Soudan. J'ai commencé par le Soudan. Quand je suis parti en Afrique, je n'avais pas la moindre idée que je deviendrais auteur. J'ai longtemps vécu et travaillé en Afrique sans rien écrire. Ça m'est arrivé bien plus tard. Ça m'est tombé dessus à la suite d'expériences particulièrement marquantes et peut-être des expériences difficiles également. Je vais aller très vite en citant 3. Il y a eu mon expérience avec les victimes de mines antipersonnelles au nord de l'Ouganda. Je dirigeais à l'époque pour une ONG italienne un centre orthopédique qui appareillait les victimes de mines. Il y avait à l'époque au nord de l'Ouganda une guérilla complètement absurde, l'armée de résistance du Seigneur, qui plaçait des mines et puis qui aussi mutilait les gens de manière abominable et qui les massacrait également. Et donc, dans ce centre affluaient des victimes de mines, des victimes de mutilations, et nous les appareillions. Donc ça a été une expérience marquante. Aussitôt après, j'ai enchaîné avec une année au Sud-Soudan qui n'était pas encore indépendant, et c'était encore la guerre, nous étions en pleine guerre. J'ai passé une grande partie de mon temps au Sud-Soudan, le nez en l'air, à essayer de détecter les avions qui éventuellement pouvaient venir et qui de temps en temps larguaient des bombes, et à me préoccuper de l'état de nos abris anti-aériens, abris fort dérisoires par ailleurs. Et au Sud-Soudan, j'étais le responsable d'une ONG allemande qui avait, l'Ordre de Malte d'ailleurs, qui avait établi un hôpital de campagne. Nous étions la seule structure à offrir des services chirurgicaux dans un territoire à peu près grand comme la France, puisque nous étions dans la zone contrôlée par la rébellion. Donc ça a été une autre expérience dure, expérience de guerre, expérience forte. Et puis enfin, l'année suivante, j'ai eu des expériences de démobilisation d'enfants soldats congolais dans l'est de la République démocratique du Congo, qui était encore en pleine guerre, qui l'est toujours un petit peu aujourd'hui, mais qui l'était à l'époque beaucoup, et qui était sous occupation étrangère, rwandaise et ougandaise. Donc tout ça fait beaucoup de choses. Et j'ai senti à un moment le besoin de témoigner, parce que quand je rentrais chez moi, en Europe, je me rendais compte que les gens ne comprenaient pas ou n'étaient pas au courant, alors que moi je vivais des choses très très dures au quotidien. Donc j'ai senti le besoin de témoigner. Alors j'ai commencé, c'était en 2002, j'ai commencé à mon retour à Bastia, j'ai fait un séjour prolongé à Bastia, à écrire. Je pensais que ça allait être un article que j'ai envoyé à La Croix, au Monde, etc. Personne n'en a voulu, il était beaucoup trop long naturellement, et bon, personne n'en a voulu. Enfin, ils ne me l'ont pas dit d'ailleurs, j'ai jamais eu de réponse. Et puis ça m'a donné envie de... J'ai continué à écrire, et puis finalement cet article, c'est devenu mon premier bouquin. C'est devenu Kadogo, enfant des guerres d'Afrique centrale, publié par l'Harmattan en 2003. Mais ça, c'était un témoignage brut, c'était absolument pas une œuvre littéraire, loin de là. C'était un témoignage brut, et à travers mon témoignage, le témoignage d'enfants soldats, parce que j'avais ciblé des cas particuliers, et j'avais recueilli leur témoignage. Tout en aussi, avant chaque partie dans ce livre, il y avait également une présentation du conflit en cours qui avait généré ce problème d'enfants soldats. Je parlais du Congo, naturellement, mais je parlais également du Rwanda, du nord de l'Ouganda et du Sud-Soudan. Il y avait aussi une partie consacrée à mon expérience sur les victimes de mines antipersonnelles en Ouganda et l'hôpital dont j'ai parlé au Sud-Soudan. Voilà, c'est ça qui a généré cette envie. Je dis souvent que le livre s'est imposé à moi. Et une fois que le bouquin est sorti, j'ai continué à écrire et je n'ai plus cessé jusqu'à présent. Et c'est une activité qui m'occupe de plus en plus. J'ai découvert le plaisir d'écrire. Et je pense que dans les livres suivants, j'ai aussi essayé de soigner également davantage, j'ai apporté davantage d'attention au style, à la syntaxe. J'ai pas encore posé ma candidature pour l'Académie française ou pour un prix Goncourt. Mais enfin, malgré tout, je pense que c'est en forgeant qu'on devient un forgeron, n'est-ce pas? C'est en écrivant qu'on devient écrivain. Je pense que c'est mon itinéraire, mais c'était pas prémédité.
Alors, votre dernier livre a un très beau titre, Au fil des chemins, et vous abordez l'Afrique, l'Asie, Méditerranée. C'est un très beau livre qu'il faut lire en détail, il est plein de témoignages, et vous vous positionnez souvent en termes de posture méta-média, c'est-à-dire que vous nous laissez entendre que ce qu'on reçoit par les médias n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Pouvez-vous nous dire un petit peu plus ?
Encore une fois, moi je vis à cheval sur deux mondes. Je vis en Afrique la plus grande partie du temps. Quand je ne suis pas en Afrique, je suis en Corse, donc en Europe, en France. Je m'énerve tout le temps quand je rentre chez nous. Je m'énerve parce que, avec le contenu des journaux télévisés qu'on nous sert chaque soir ou chaque midi, les priorités qui sont données, l'absence de couverture de certains problèmes qui me semblent fondamentaux ou très graves, aussi la manière, quand ils sont présentés, ces problèmes graves qui me sont chers, la manière dont ils sont présentés. Je suis souvent scandalisé par l'inculture apparente de certains journalistes qui, ces dernières semaines, on a beaucoup parlé du 20e anniversaire du génocide rwandais, mais la plupart des journalistes qui en ont parlé ne connaissaient pas le problème. Je m'excuse, ils ne connaissaient pas le problème. Ils ont présenté le génocide de manière manichéenne. Il y avait d'un côté les bourreaux, de l'autre côté les victimes, et c'est tout. Mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Donc, je suis un insurgé. Je suis un peu un rebelle. Et je cherche à montrer que y a pas de vérité absolue. Y a pas les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Et aussi, je cherche toujours à relier. Par exemple, le problème centrafricain dont on parle en ce moment. Bon, on peut pas comprendre le problème centrafricain si on connaît pas un minimum de l'histoire de ce pays depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence de ce qui s'est passé avant. Il faut toujours relier l'actualité présente à l'histoire. Et bien souvent, nos journalistes ne connaissent pas l'histoire des conflits qu'ils essaient de traiter.
Alors, dans ce livre, Au fil des chemins, il y a encore de l'espoir ?
Mon deuxième livre, je l'avais intitulé chronique africaine de guerre et d'espérance. J'avais tenu à mettre le mot espérance parce que je pense que en Afrique comme ailleurs, il y a des raisons d'espérer. Je vois des choses très belles parfois qui me donnent envie d'espérer. Il y a également des pays dont on ne parle jamais parce que on a une vision de l'Afrique ici en France et plus généralement dans le monde occidental qui est très déformée. J'ai fait une comparaison audacieuse dans mon troisième livre, Chronique d'un ailleurs pas si lointain. Ces deux livres ont été publiés par Percé, un éditeur de la région d'ailleurs. J'ai osé écrire plus exactement que l'Afrique souffrait de mésinformations de la part de nos grands médias parisiens ou occidentaux, tout autant que la Corse souffre de mésinformations de la part également de nos grands médias nationaux. Il y a aussi des clichés qui sont véhiculés. n'est-ce pas ? Je rencontre beaucoup de gens quand je viens sur le continent, comme c'est le cas en ce moment, qui sont persuadés qu'il y a des bombes à tous les coins de rue, que pour un Français du continent, c'est dangereux d'aller en Corse, ou des choses comme ça, ce qui est naturellement complètement faux et complètement caricatural. C'est pas du tout ça. Bon, pareil pour l'Afrique. Il y a des pays dont on ne parle jamais, où il se passe des choses très intéressantes, des pays qui progressent, des pays... Qui a entendu parler du Ghana ? Le Ghana, c'est un pays en pleine expansion, avec une croissance qui ferait pâlir d'envie nos dirigeants ici en France. Il y a de l'espoir en Afrique. Il y a des choses qui se passent, qui sont intéressantes. Il y a des pays qui n'ont jamais connu la guerre. Le Ghana, par exemple. Mais je pourrais parler du Malawi. J'ai vécu 6 ans au Malawi. Le Malawi n'a jamais connu la guerre. C'est un pays pacifique. Le peuple est accueillant. C'est un des rares pays d'Afrique qui est dirigé par une femme. Il a une présidente. Donc il y a des choses qu'il faut signaler quand même, des choses qui donnent des raisons d'espérer.
Je vois, c'est important. En tout cas, Hervé, moi qui ai lu de façon approfondie votre dernier livre et qui a été exploré longtemps, votre site dont vous nous rappelez ici les références.
Oui, c'est http, /:// Cheuzeville, c'est mon nom de famille, Cheuzeville, .net, N-E-T.
Voilà. Très bien. De toute façon, chers auditeurs, si vous n'avez pas pris, nous mettrons toutes ces références de livres et de sites sur la note de synthèse. Alors, moi qui ai lu tout cela, qui ai exploré cela, je peux effectivement témoigner à mon tour modestement que vous avez un triple souci. Le premier, c'est de relier les événements au passé, et ça, je trouve ça extrêmement important. Dans les informations que nous avons, c'est quasiment toujours inexistant. Votre deuxième souci, me semble-t-il, c'est celui de la vérité. Vous assistez à des manipulations, à des dénigrements, à des rumeurs. Nous en avons parlé hors antenne sur des cas très précis qui ont touché, par exemple, l'Église catholique récemment, à propos de massacres avec tant de points d'interrogation, que ces rumeurs, ces dénigrements finissent pour trop de gens, pour trop parmi nous, de devenir des vérités. Et on ne va pas plus loin et on les prend pour des vérités. Puis la troisième chose que j'ai trouvée tout à fait remarquable, c'est que vous avez le sens du complexe, du refus des lectures manichéennes, binaires, noires ou blancs, et vous nous apprenez la complexité, la nuance, le métissage des situations. C'est bien cela ?
Tout à fait, vous avez très bien compris ce que j'ai cherché à exprimer. Je dis souvent qu'un mensonge qui est répété une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois, il finit par devenir une vérité. Et qu'après, il est très difficile de contester cette soi-disant vérité. Et c'est mon problème actuellement quand j'essaie de m'exprimer au sujet du Rwanda. C'est que on nous a présenté les choses d'une telle manière... Ça a été véhiculé, relayé en France par tout un tas de canaux médiatiques et politiques, qu'il est aujourd'hui très difficile de dire ce qui s'est réellement passé au Rwanda. Et c'est ce que j'ai essayé. J'ai vécu au Rwanda, j'ai vécu autour du Rwanda, et j'essaye de témoigner de ce que je sais du Rwanda, qui ne coïncide absolument pas à ce qu'on voudrait nous faire croire.
Alors Hervé, vous parliez tout à l'heure de l'Académie française. Je me permets de vous dire que vous me semblez trop jeune et que vous êtes habité tellement par votre enfance que vous n'avez aucune perspective de ce côté-là. Mais je pense que par contre, on peut vous attribuer le titre très beau pour moi de praticien-chercheur. Vous êtes vraiment un praticien qui est au cœur du terrain. Vous cherchez, vous questionnez, vous interrogez. Et je pense que votre écrit vous permet aussi de prendre de la distance et de revoir, de revisiter ce que vous vivez au quotidien. Tout à l'heure, avant cette émission, je vous posais une question. Et si vous étiez le secrétaire général de l'ONU, quelles sont les trois recommandations que vous feriez en priorité ? Et votre réponse a été, je vous demanderai de les commenter, la première, c'est d'avoir une instance d'analyse, de prévision, de prospective et de veille, comme si ça n'existait pas. Alors vous allez vous expliquer. La deuxième, que j'ai trouvée absolument merveilleuse, il n'y a qu'un enfant pour faire une telle proposition, c'est de faire en sorte que les bureaucrates, les fonctionnaires ne restent pas dans leur bureau, mais que régulièrement ils aillent sur le terrain. Puis la troisième chose reformulée dans mon langage, c'est que le rapport projet-programme ne soit jamais le remplacement du programme par le projet, mais que le programme soit toujours au service du projet, qu'il dépasse amplement. Voulez-vous commenter, si j'ai bien saisi ce que vous m'aviez dit ?
Oui, c'est un vaste sujet, mais bon, je vais commenter en citant des exemples. Pour le premier point, l'analyse des situations en cours ou de l'évolution de problèmes, Parlons de la République centrafricaine. Tout d'un coup, on découvre ce pays, on découvre ce qui se passe. On parle de ces milices chrétiennes qui massacrent des musulmans, etc. Bon, moi, ça faisait 2 ans. Je travaillais au Tchad à l'époque, le pays voisin. Ça faisait 2 ans que je ne cessais, dans toutes les réunions auxquelles j'assistais, de sonner, de tirer la sonnette d'alarme, de dire attention, attention, ce qui est en train de se passer en Centrafrique, ça va amener un désastre humanitaire. J'étais pas le seul, hein, naturellement, je suis bien prétentieux de tirer la couverture à moi. Je n'étais pas le seul à tenir ce langage, mais en tout cas, je l'ai tenu. Mais à l'époque, la Centrafrique, personne n'en parlait. Et il était très difficile de sensibiliser les grands bailleurs de fonds étatiques, internationaux, Union européenne, USAID, etc., à la Centrafrique. Ça ne les intéressait pas. Et tout d'un coup, on découvre le problème quand il est trop tard. Or, si on était intervenu à l'époque où nous crions au loup, ben peut-être que le loup ne serait pas venu. Bon, pareil au Rwanda en 94. Quelle a été la réaction du Conseil de sécurité à l'époque? Et je rappelle que le département des opérations de maintien de la paix en 94 aux Nations Unies était dirigé par Kofi Annan. Celui-là même qu'on a récompensé 1 an plus tard ou 2 ans plus tard en le nommant secrétaire général des Nations Unies. Eh bien, quelle a été la réaction de Kofi Annan? Quelle a été la réaction du Conseil de sécurité à l'époque? Il y avait 3500, je dis ça de mémoire, hein, 3500 casques bleus au déclenchement des massacres à Kigali en 94, qu'est-ce que ça a été la réaction? Ça a été de retirer les casques bleus pour n'en laisser que 300. Bon, alors si on veut vraiment chercher des responsables du génocide, eh bien c'est dans cette direction qu'il faut chercher. C'est pas du côté de l'armée française. Bon, aidez-moi, ça, le deuxième point.
Et les gens du terrain, c'est-à-dire amener les bureaucrates sur le terrain.
Oui, bien sûr. Alors là, je vais encore citer un exemple. Je travaillais pour le PAM en Ouganda. Je m'occupais de l'urgence à l'époque, mais j'avais un collègue qui était au même niveau de la hiérarchie que moi, qui s'occupait d'une région semi-aride qui s'appelle le Karamoja. Et moi, il se trouve que j'aimais beaucoup cette région et j'y allais parfois pendant mon temps libre, pendant le week-end. Problème de famine récurrente et le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, avait un gros programme d'aide alimentaire aux écoles, etc. Et moi, à chaque fois que je rentrais de week-end, je lui expliquais que beaucoup des écoles auxquelles on envoyait la nourriture n'existaient pas. C'était des écoles fantômes ou que les chiffres d'enfants étaient exagérés. Et je lui disais, mais il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles sur le terrain. Il dit, ah non, je ne peux pas, il y a trop de poussière, j'ai de l'asthme, il n'y a pas d'air conditionné, etc. Je caricature à peine. Bon, eh bien, je pense que si lui avait été sur le terrain comme je l'avais fait, il se serait rendu compte du problème.
Alors, dernier point, c'était ce rapport de programme et projet. Il peut y avoir plein de programmes et on peut faire disparaître le projet. Beaucoup, le souffle, l'esprit.
Beaucoup de grosses ONG aujourd'hui ont trop tendance à concevoir des projets en fonction des bailleurs de fonds, parce qu'ils savent ce que l'Union européenne est prête à soutenir ou pas, ce que USAID est prêt à soutenir ou pas. Donc on prépare des projets en fonction des bailleurs et pas forcément en fonction des besoins sur le terrain. Voilà.
Alors, il y a vraiment, encore une fois, je réitère ma question, de l'espoir pour l'avenir?
Parfois, je suis très désespéré. Je l'avoue, je suis très désespéré, très pessimiste. Mais quand je vois que des petites actions, parfois, redonnent de l'espoir et ont un impact réel sur la vie des gens, je retrouve l'espoir et la force de continuer.
Alors, voyez-vous, ce soir, chers auditeurs, vous avez, avec Hervé, quelqu'un qui est sur le terrain, qui est un praticien et ô combien, qui a navigué en Asie, en Afrique, et qui n'oublie pas la Méditerranée pour autant. Il s'indigne, il témoigne, il témoigne et retémoigne pour nous rappeler les injustices, pour nous rappeler parfois les désinformations. Je crois que c'est important aussi. Et dans votre livre, il y a à la fois des réactions contre l'injustice, mais contre les désinformations.
J'ai inventé un mot. La mésinformation.
Parce la
que
mésinformation.
Plus que de la désinformation, c'est de la mauvaise information, de la mauvaise information.
Voilà, c'est encore pire. Donc vous avez quelqu'un qui devant vous, ce soir, vous ne le voyez pas, mais il est en studio, et vous le verrez à travers ses livres, qui est un praticien et un chercheur, et qui ose croire encore que l'espoir a un avenir. Chers auditeurs, nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Hervé, d'être venu jusque nous.
Merci beaucoup, Michel.
Votre prochain projet.
C'était un plaisir. Mon prochain projet, bon, un cinquième livre, bien sûr, mais repartir le plus vite possible.
Très bien. Alors, demain soir, nous parlerons de la philosophie. Nous irons au lycée Amiral de Grasse et nous participerons à un cours de philosophie, donc avec des étudiants de première aile. Et nous découvrirons ce lycée Amiral de Grasse, qui est une instance plus que respectable, reconnu et apprécié à Grasse. Pour ce soir, n'oubliez ni au fil du chemin, le dernier livre d'Hervé Cheuséville, Edilivre, c'est le dernier livre paru au fil des chemins. Il est paru en 2014.
On peut commander chez tous les libraires ou qu'on peut commander directement sur le site de Edilivre.
Voilà, en attendant le prochain livre. Merci beaucoup Hervé et chers auditeurs, demain soir.